Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
J'aimerais que le quotidien, cette moisissure de nos toujours, nous ait épargné en chemin, que l'on s'aime encore, comme au premier jour.
Bonjour, c'est Yann. J'étais à l'espace culturel Édouard Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Le parolier, chanteur, chroniqueur musical, comédien, animateur radio et l'auteur Frédéric Zetoun était venu présenter son ouvrage sorti aux éditions L'Archipel, Fauteuil d'artiste. Monsieur Zetoun, bonjour.
Frédéric, ce sera beaucoup plus simple.
Monsieur, là, ça met du cérémonial. Faisons simple. Donc vous, c'est Monsieur Yann, c'est ça ?
Ouais, Monsieur Yann. Dans ce livre, vous racontez votre parcours avec un ton assez alerte. Contre le poids, entre autres, que peut représenter le regard des autres vis-à-vis d'une personne en situation de handicap.
Et comme vous le disiez, Yann, oui, c'est un parcours. Je voulais surtout pas que ce soit dramatique, que ce soit pathos, surtout pas, parce que c'est pas du tout ma façon d'être. Mais en même temps, j'avais des choses à dire, j'avais des choses sur le cœur et dans l'idée. Il me semble qu'aujourd'hui, la situation des personnes en situation de handicap n'est pas du tout prise en compte, enfin n'est pas encore suffisamment prise en compte. Donc, il y a encore des tas de choses qu'il faut améliorer. Et donc voilà, ce n'est pas un livre militant, c'est un livre où je raconte mon parcours. Et dans ce parcours, il y a aussi ces écueils avec lesquels il a fallu faire avec.
Particulièrement le paysage audiovisuel.
Entre autres, le paysage audiovisuel, c'est pas le plus mal loti, le paysage audiovisuel. Mais déjà, pour pouvoir étudier, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir aller à la fac, ça n'a pas toujours été très simple. Et c'est vrai, alors, le paysage audiovisuel, c'est vrai que beaucoup de journalistes se sont arrêtés sur ce chapitre, mais c'est un chapitre qui, quand même, au niveau du symbole, en dit long. Si la télévision est le parfait miroir de la société, de voir que, alors qu'on est entre 10 et 12 millions selon les enquêtes, 10 à 12 millions de personnes en situation de handicap, entre les personnes en situation de handicap définitif comme moi ou juste temporaire, quelqu'un qui juste aurait un accident et se retrouverait en fauteuil roulant pour quelque temps, donc 10 à 12 millions de gens concernés, et vous avez 0,6% d'images à la télévision ou incarnées par des personnes en situation de handicap. Et chercher l'erreur quand même. Il y a un hiatus, enfin, il y a un gap qui me paraît extrêmement important. Dans ces 0,6 ou 0,8%, selon les années, on n'a jamais atteint les 1%. Vous comptez dedans les paralympiques. Enfin, vous voyez, c'est complètement aberrant. Faire de voir aussi peu de gens en situation de handicap à l'écran, ça y est, ça commence. On commence à voir des gens dans situation de handicap et dans des fictions, mais généralement, ces fictions sont jouées par des gens qui sont totalement valides et qu'on met dans un fauteuil. Vous voyez quelques personnes en pub. Enfin, ça reste honnêtement, on n'est pas du tout. Le regard est loin d'être banalisé. Mais mon livre, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'une thèse pour les personnes en situation de handicap. J'en parle parce qu'il me paraissait important d'en parler.
Et vous en parlez avec autodérision, avec humour. Vous dites que pour vous, l'humour, c'est une politesse. Que même les choses les plus dures sans forcément heurter les autres, il faut les dire. Et quelque part, l'humour, c'est un art de vivre pour vous ?
Oui, l'humour, vous savez, je crois que ça tient de famille. On a toujours aimé rire à la maison. On a toujours essayé de positiver les choses. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. On n'était pas une bande de bisounours imbéciles en train de rire de tout et de rien. Non, il y a eu des moments difficiles. Mais on a toujours essayé de célébrer la vie. Et quand vous célébrez la vie, forcément, pour célébrer la vie, il faut un tout petit peu d'humour. L'humour, c'est non seulement une politesse chez moi, et c'est aussi une arme. Parce que parfois, avec un grand sourire, vous pouvez être beaucoup plus cinglant et votre langage va beaucoup plus porté qu'en hurlant et en étant agressif. Je pense que pour que ce livre soit lu, il fallait qu'il soit lisible. Et pour qu'il soit lisible, il ne s'agit pas de ménager le lecteur. Il s'agit surtout de faire en sorte que mon message passe. Et j'ai la sensation, en ce qui me concerne en tout cas, mon message, j'ai plus de facilité à le faire passer avec un brin d'autodérision qu'avec le point levé militant et une forme d'agressivité.
Alors, dans ce livre, donc, vous racontez votre parcours. Très vite, vous avez écrit vos premiers textes, c'était à l'adolescence. Mmh. Et à l'âge de 15 ans, vous avez fait la première partie d'Alain Souchon dans un festival qui était basé en Seine-Saint-Denis.
Tout à fait, exactement. Je vois que vous avez bien lu le bouquin. Oui, tout à fait. Ben oui, c'était ma prof d'allemand de l'époque qui programmait ce festival. Je lui avais montré mes premiers couplets maladroits. C'était des brouillons, vous savez, c'était vraiment 15 ans. Vous imaginez, quoi. On est en pleine crise d'adolescence. J'écrivais des... des petits poèmes qui n'avaient de chansons que de noms, quoi. Franchement, c'était plus des ébauches. Avec toute l'inconscience du débutant, j'étais monté sur scène et je m'étais bien marré.
Été 83, c'est votre premier 45 tours, C'est Matin, qui vous a valu un succès d'estime.
Ah oui, d'estime, j'en ai vendu deux à mon père, à ma mère, tout à fait. C'est ce qu'on appelle de l'estime. Non, je plaisante en disant ça. Ça m'a valu une certaine estime du métier. J'ai fait ma première grande télé chez Michel Drucker, qui est resté d'une fidélité. Lui, je le dis, dans un métier où souvent on décrit les gens et on aime bien cracher à gros bouillon sur les gens. Ben voilà quelqu'un de vraiment gentil. C'est un vrai gentil, un vrai fidèle. Lui, ça fait 30 ans que je le connais et ce monsieur a toujours été d'une élégance. Absolument incroyable. Non, pour ce qui est de ce 45 tours, ben oui, j'arrivais de la fac de droit, j'étais dans mon HLM à Aulnay-sous-Bois, je me suis retrouvé sur le plateau de Michel Drucker, je crois que j'ai pas tout à fait compris ce qui m'est arrivé. En revanche, ça m'a amené à écrire pour les autres. C'est-à-dire que ce 45 tours, s'il n'a pas eu en tant que moi en tant qu'interprète un grand succès populaire, c'est le moins qu'on puisse dire, ça m'a fait repérer par des gens et j'ai pu commencer à écrire pour les autres. Et je pense qu'à l'époque, c'était vraiment ma place. Je dis pas que ma place est ailleurs aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais tellement pas prêt, j'étais tellement pas du tout rompu aux us et coutumes de ce métier. J'arrivais tellement de loin. Et puis pour moi, ce qui était tellement important, c'était d'écrire. Chanter, c'était la cerise sur le gâteau. Mais franchement, ce qui était important pour moi, c'était de dire ce que j'avais à dire. Et que je le dise en le formulant moi-même ou en offrant mes textes à d'autres, ce qui était important pour moi, c'était d'arriver très vite à vivre de ce métier, à vivre de l'écriture, ce que j'ai pu faire assez rapidement.
À tous les temps de l'illusoire.
Vous écoutez actuellement l'interview du parolier et de l'auteur Frédéric Zetoun. Il était présent à l'espace culturel Édouard Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Il était venu dédicacer son ouvrage « Fauteuil d'artiste ». Une rencontre importante dans votre carrière, c'est celle avec Jacques Martin.
Oui, bah alors ça, c'est un monsieur. Vous savez, il y a des gens qui vous ouvrent des coins de possibles. Mais même pas, j'y pensais, quoi, faire de la télévision. C'était vraiment quelque chose qui ne me fleurait pas l'esprit. Et je le rencontre justement pour un livre que j'étais en train d'écrire, le premier ouvrage que j'étais en train d'écrire, 70s. Et c'était un dictionnaire des mots-clés des années 70. Et dans les mots-clés des années 70, à la lettre P, je voulais faire Le Petit Rapporteur, qui était l'émission qui avait vraiment révolutionné l'humour à la télévision. Et donc je demande un rendez-vous à Jacques Martin, plusieurs fois on m'est conduit, puis je finis par avoir quelqu'un en ligne qui, certainement me trouvant assez audacieux et accroché, j'avais rappelé plusieurs fois, donc Babette Gage, l'assistante de Jacques, qui est devenue une amie, me dit « bon, ok, très bien, on va vous trouver un petit quart d'heure, venez ». Et donc voilà, et ce quart d'heure a duré 4 ans. Voilà, c'est un raccourci, mais c'est vraiment ça. Ce quart d'heure a duré 2 heures. Au bout de ces 2 heures, il me dit j'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Je voyais pas pourquoi. Honnêtement, je comprenais pas bien. Et 3 jours après, il m'a rappelé pour me demander si ça m'intéressait de venir bosser avec lui. Ça fait partie des grandes chances de ma vie. La vie n'est pas toujours facile, la vie n'est pas toujours simple, mais de temps en temps, il y a des anges qui sont là pour éclairer votre route. Et franchement, ce monsieur, quand je suis rentré dans son bureau pour l'interviewer sur Le Petit Rapporteur, je ne pensais vraiment pas passer 4 ans au Théâtre de l'Empire à jouer la comédie, à écrire des parodies, à faire le clown, enfin, et en plus à être payé pour ça. Le plus drôle pour moi, ça a été à la fin de la première émission, et je dis ça sans aucun... Il n'y a aucune fausse candeur là-dedans. Quand l'expert comptable est venu me donner mon chèque à la fin de la première émission, on était en plus très très bien payé chez Jacques. J'ai cru que je rêvais, quoi, en fait. C'est-à-dire que je m'étais déguisé en clown, j'avais fait le clown, j'avais écrit des parodies sur tout ce que l'actualité traitait à l'époque, et en plus on nous payait pour ça. C'est quand même rare.
On l'a dit tout à l'heure, vous êtes fait connaître comme parolier, vous avez écrit pour des artistes et des chanteurs très différents. Oui. On peut citer Enrico Macias, Annie Cordy, Louis Bertignac, mais aussi Frédéric François, mais Zaz également.
Oui, alors Zaz, une chanson seulement, une chanson.
Sans l'avoir rencontré,
c'était pas du tout un texte à la base que je pensais lui envoyer. Et c'est mon éditeur qui a eu l'idée de lui envoyer ce texte qu'elle a mis en musique. Le record, c'est Frédéric François, 75 chansons à ce jour. C'est d'autant plus amusant et d'autant plus touchant pour moi que c'est un monsieur qui m'a vraiment aidé à vivre quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, j'écoutais ses chansons. Et il me procurait une forme d'apaisement, ces chansons. Je m'assimilais beaucoup à lui. Vraiment, quand j'étais petit, après, je suis passé à d'autres choses musicalement. Et je l'ai retrouvé quelques 30 ans plus tard. Et une histoire d'amitié est née. Et franchement, voilà, je collabore avec lui depuis 22 ans avec un grand bonheur.
On l'a dit en début d'introduction, vous êtes également animateur radio sur une radio qui s'appelle Radio J. Et le dimanche, vous animez une émission.
Exactement. Alors ça, c'est vraiment un truc que je fais pour me faire plaisir, ça, pour le coup. Radio J est une radio culturelle et cultuelle. Je connais bien son directeur, Nelou Cohn. C'est vraiment un ami. Et quand ils ont repris les rênes de cette radio, qui était une radio associative, enfin, il n'y a rien de péjoratif pour moi dans le mot associatif, mais là, ils ont voulu lui donner un autre habillage, on va dire, en recrutant de nouveaux animateurs et de nouveaux journalistes. Nelou savait à quel point j'avais envie de faire de la radio. J'avais fait pas mal de chroniques sur nostalgie, notamment à une époque, mais j'avais jamais eu une émission entière. Et j'avais très envie de me faire plaisir à interviewer des gens qui m'intriguent. Et donc je prends le vecteur de la chanson, le prétexte de la chanson, pour interviewer des gens. Et en 3 ans, j'ai eu des gens aussi différents que Bernard Cazeneuve, qui est venu nous parler de ses goûts musicaux, que Patrick Bruel, que Laurent Gérard, que Jean-Louis Debré, enfin, des hommes politiques. Enfin, Jean-Louis Debré, ce n'est plus un homme politique, maintenant c'est un homme de spectacle puisqu'il monte sur scène, mais des gens extrêmement différents qui viennent... au travers des chansons et se raconter. L'idée, en fait, c'est qu'un invité me glisse à l'oreille ou me fait passer par son attaché de presse en amont 5 chansons qui ont compté dans sa vie. Et je tricote mon interview au travers de ces 5 chansons-là. Et vous savez très bien, vous qui faites de la radio aussi, Yann, quand les gens n'ont pas l'impression de se raconter, mais de parler de quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, il n'y a rien de tel pour les faire se raconter eux-mêmes, en fait. En parlant de leurs chansons et des chansons qui ont marqué leur vie, finalement, ces gens-là se racontent beaucoup.
La télévision, toujours chroniqueur dans l'émission de Télématin.
Ben, j'y étais encore ce matin. J'ai mis mon réveil ce matin, tous les samedis matins, dans cette nouvelle équipe, dans cette nouvelle formule. En juillet prochain, enfin, je ne vais pas me porter la poisse, mais si je vais jusqu'en juillet prochain, j'aurais fait un quart de siècle à Télématin. Et là aussi, j'étais rentré pour faire un remplacement de 8 chroniques. Voilà. 25 ans, et quelques chroniques de plus.
C'est un plaisir de venir ce samedi à Pont, rencontrer votre public pour dialoguer avec vous sur cet ouvrage.
Venir rencontrer les gens, c'est un public. Quand on fait le métier d'auteur, on est devant son ordinateur, on rencontre personne et on est entre soi et soi. Là, venir, notamment avec ce bouquin-là où je reçois via les réseaux sociaux, mais vraiment des lettres qui me touchent au cœur, quoi. Vraiment des parents d'enfants en situation de handicap qui me parlent. Enfin, il y a quelque chose. La semaine dernière, j'étais en grande banlieue parisienne. Des gens sont venus, un couple de personnes. Enfin bon, voilà, il n'y a pas que des personnes en situation de handicap qui lisent ce bouquin, Dieu merci. Sinon, ce serait un petit peu restreint. Mais avoir le témoignage de gens qui ont vécu le même parcours du combattant et lorsqu'ils me disent qu'ils trouvent un écho et peut-être une parole ou un réconfort dans ce que j'ai pu écrire, honnêtement, ça me fait chaud au cœur. J'ai pas fait ce livre pour accroître ma notoriété, j'ai pas fait ce livre pour m'acheter une nouvelle voiture, honnêtement, non. J'ai fait ce livre parce que j'avais vraiment besoin impérieux de l'écrire.
Frédéric Zetoun, merci à vous.
Merci à vous.
J'aimerais que la barbarie ne soit plus dans le dictionnaire qu'un nom de figue, un nom de fruit. Une douceur pour le dessert.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc à l'espace culturel Édouard Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Frédéric Zetoun était venu dédicacer son ouvrage Fauteuil d'artiste. Merci de votre écoute. Au revoir.
J'aimerais un matin magicien, juste pour le bonheur d'y croire.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.